Les gammascopes, ce sont une technologie révolutionnaire de réalité virtuelle et augmentée, en passe de devenir omniprésente. Mais derrière ce qui semble être une innovation historique, se cache une réalité bien plus sombre. Une réalité qui amènera de jeunes hackers militants à côtoyer le danger de trop près. Dans un futur dystopique pas si éloigné de nous, un journaliste d'investigation convie deux personnes, dont vous, à consulter les témoignages et preuves qu'il a collectés. Il enquête sur une étrange série de morts. À la fin, vous seul aurez le dernier mot concernant la vérité sur toute cette histoire. Et voici l'un de ces témoignages. Bienvenue dans Magma Bleu, épisode 7, une question d'éthique. Elita Lemieux était une jeune femme de 23 ans. Après une nuit trop courte, la sonnerie stridente de son réveil résonna dans la petite chambre qu'elle partageait avec son fils Raphaël, âgé de 5 ans. La lumière grisâtre du jour éclairait les posters de manifestations écologistes et les piles de livres universitaires entassées sur le bureau.
« Réveille-toi, mon trésor, c'est l'heure !»
chuchota-t-elle à son fils. Chaque matin, Edita se préparait rapidement, devant jongler entre ses responsabilités de mère célibataire et celles d'étudiante. La routine était toujours la même. Préparer Raphaël, puis le conduire à l'école avant de se rendre sur le campus universitaire. Sur le chemin, elle avait l'habitude de se perdre dans ses pensées, son esprit constamment occupé par ses activités militantes quand il ne s'agissait pas de ses études. Sa matière favorite était le cours de biotechnologie, une matière qu'elle trouvait à la fois fascinante et essentielle pour le futur.
Aujourd'hui, nous allons aborder les dernières avancées en matière de nanotechnologie appliquée à la santé.
Déclara son professeur avec un fort accent des pays de l'Est. Elita écoutait attentivement, prenant des notes détaillées. Son intérêt pour le transhumanisme amélioratif se reflétait non seulement dans ses études, mais aussi dans ses propres modifications corporelles. Elle cherchait toujours à comprendre comment les nouvelles technologies pouvaient améliorer la condition humaine. C'est à ce titre qu'elle portait, en tant qu'ancienne dépressive, un régulateur d'émotions, mais aussi une carte mémoire cérébrale pourtant illégale en Europe. Pendant sa pause déjeuner, Elita avait pris l'habitude de retrouver Geoffroy Desilets, son colocataire et ami proche, dans un café du campus. Geoffroy, un homme de 23 ans également, était tout aussi passionné par les causes écologiques et les avancées technologiques. Ils s'installèrent à une table isolée, leurs ordinateurs portables ouverts devant eux.
Alors, comment s'est passée ta matinée ?
Lui demanda Geoffroy en souriant.
Intense comme d'habitude,
répondit-elle dans un soupir.
Mais passionnante, et toi ?
Oh, juste une autre journée à sauver le monde,
dit-il avec un sarcasme.
J'ai déniché quelques informations intéressantes au sujet de Gamma.
Ils discutèrent de leurs projets respectifs, de leurs recherches et des dernières nouvelles dans le monde du hacking et de l'écologie. Après une journée bien remplie, Elita avait pour habitude de récupérer Raphaël à l'école et rentrait à leur petit appartement. Le soir, après avoir couché son fils, elle s'installait devant son ordinateur pour travailler sur ses projets militants. La lueur bleutée de l'écran illuminait son visage concentré. Elle inséra sa carte mémoire cérébrale dans un lecteur, transférant les logs de ses activités récentes. Ces données étaient cruciales pour son application avec le groupe de hackers Nekonata, au sein duquel elle jouait un rôle important. Elita pensait chaque jour au risque qu'elle prenait. Être à la fois une hackeuse militante, une étudiante et une mère célibataire n'était pas chose facile. Mais elle était déterminée à faire sa part pour ce qu'elle pensait être un monde meilleur. Son régulateur d'émotions l'aidait d'ailleurs à maintenir un certain équilibre malgré un stress constant. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, elle reçut un message crypté d'un certain Warzone, un membre du groupe des Nekonata, plus connu sous le nom de Henri Garcia. J'ai peut-être découvert quelque chose de gros. J'ai réussi à obtenir des informations sur les Gammascopes. Rendez-vous sur le bridge. Elita ouvrit le fichier joint et découvrit des détails relatifs à des anomalies dans le code des Gammascopes. Ces anomalies suggéraient que ces appareils disposeraient de backdoors permettant de surveiller les utilisateurs, mais aussi de surveiller leurs pensées et émotions via leurs récepteurs synaptiques. Bien que cela restait à démontrer, il ne lui en fallut pas plus pour adhérer à ces théories.
C'est incroyable. Il pourrait hacker l'esprit humain ?
Se dit-elle. Elle savait qu'elle devait agir. Cette découverte pourrait changer le monde, mais elle connaissait aussi les dangers qui accompagnaient une telle révélation. Elita se rendit alors à la réunion virtuelle des Nekonata qui avaient reçu les mêmes informations. Les avatars holographiques des participants apparurent alors autour d'une table virtuelle.
Warzone a découvert une backdoor dans les Gammascopes qui permet de surveiller les pensées et émotions des utilisateurs. C'est bien pire que ce qu'on imaginait.
Les réactions varièrent. Certains hackers étaient sceptiques, d'autres étaient visiblement choqués. Le débat s'anima rapidement.
C'est trop gros pour être vrai. Comment une entreprise pourrait-elle cacher quelque chose d'aussi énorme ?
Demanda un hacker surnommé Tarorlan.
C'est tout à fait possible. Je vous rappelle que je travaille chez eux.
Ajouta une dénommée Galliard.
Et Warzone n'est pas n'importe qui. Il travaille directement avec du matériel de Gamma. Si c'est vrai, nous devons faire quelque chose. Je devrais pouvoir aider. Mais c'est un gros poisson à attraper. Les risques sont énormes.
Nous ne pouvons pas ignorer ça,
ajouta Elita.
Si Warzone a raison, nous devons enquêter et aider la vérité à éclater.
Le groupe débattit longuement avant de voter. Finalement, ils décidèrent d'aider Warzone et son employeur Arnaud Lafont, mais sans s'engager davantage. Quelques semaines plus tard, les Nekonata avaient terminé d'assister Warzone et son employeur dans leur hack de Gamma. Ils laissèrent ensuite à Warzone le soin d'étudier les données collectées.
Pour moi, ça ne suffit pas. Je ne peux pas laisser cela uniquement entre leurs mains. Nous devrions nous assurer que la vérité sorte.
S'exclama Elita à l'occasion d'une réunion.
Nous ne connaissons pas bien Arnaud Lafont. Mais a priori, il a les moyens de faire quelque chose. Laissons-le prendre des risques.
Répondit Tarorlan. Le collectif décida donc de ne pas aller plus loin. Après la réunion, Elita se retrouvait seule devant son écran. La décision du groupe de se limiter à une simple assistance lui semblait insuffisante. Elle pensa à son fils et à l'avenir qu'il aurait si cette technologie n'était pas contrée. Mais seule, elle ne savait pas par où commencer. Quelques jours plus tard, tandis qu'elle était assise sur le canapé de leur appartement, Geoffroy arriva avec deux tasses de café. Non loin, le petit Raphaël dormait paisiblement dans la chambre.
Tu as l'air préoccupée, Elita. Qu'est-ce qui se passe ?
Demanda Geoffroy. Elita prit une profonde inspiration et lui expliqua tout. Elle avait reçu les résultats des analyses de Henri Garcia. Tout y était. Les informations concernant la backdoor des Gammascopes, autant que les réelles fonctionnalités cachées.
Geoffroy, c'est énorme. Ils peuvent même influencer les pensées des gens. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Mais c'est vraiment trop gros pour moi toute seule. Warzone a découvert quelque chose de trop important pour ne compter que sur son boss. Mais en même temps, c'est dangereux.
Après un moment de réflexion, Geoffroy décida de la soutenir.
Je suis du même avis que toi, et c'est justement pour ça que nous devons agir. Pour Raphaël, pour notre avenir. Mais on doit être extrêmement prudent.
Ils passèrent le reste de la soirée à discuter des possibilités qui s'offraient à eux. Ils se plongèrent alors dans l'analyse approfondie du code des Gammascopes pour remonter la piste de la backdoor. Car révéler le problème ne suffirait pas. Ce sont des noms qu'il fallait mettre dessus. Chaque avancée les rapprochait de la vérité, mais augmenter également leur risque d'être découvert. Elita commença à ressentir une certaine pression. Ses pensées devinrent de plus en plus sombres, et elle se surprit même à avoir des idées morbides. Elle en parla à Geoffroy qui la soutient du mieux qu'il put.
C'est juste un peu de surménage, Elita. Tu es plus forte que tu ne le penses.
Malheureusement, leurs recherches ne donnèrent rien de suffisant. Ils auraient pu tenter de tout révéler à la presse, bien que les sources ne soient plus protégées. S'il n'y avait eu qu'eux, ils auraient pris ce risque. Mais c'était sans compter le petit Raphaël. Le lendemain, Elita et Geoffroy contactèrent d'autres membres des Nekonata pour trouver une solution. Mais malgré les résultats d'analyse de Henri Garcia, la réponse était toujours la même. Ce n'était pourtant pas un groupe de hackers amateurs, mais la peur de tout perdre ici était trop grande. Un soir, Elita commença à avoir des hallucinations et fut prise d'une crise de panique, malgré son régulateur d'émotions.
Geoffroy, je vois des choses qui ne sont pas réelles.
Geoffroy la prit par les épaules, essayant de la calmer.
Respire, Elita. Nous allons y arriver. Concentre-toi. Ton régulateur devrait t'aider.
Au fur et à mesure de leurs recherches, ils découvrirent toutefois qu'une personne d'Orab était infiltrée à la fois chez Gamma et dans les milieux hackers. La menace devenait palpable. Peu après cette découverte, Elita et Geoffroy reçurent un avertissement explicite signé au RAB.
Arrêtez immédiatement, vous avez été repérés, disait ce message.
Elita et Geoffroy réalisèrent qu'ils étaient dans une situation bien plus dangereuse qu'ils ne l'avaient imaginé. C'est dans ces circonstances qu'ils décidèrent de contacter à contre-cœur Nicolas Bison, un bioconservateur modéré, afin d'obtenir son aide. Tandis qu'il quittait le cocktail au cours duquel ils avaient pu avoir un premier contact avec lui, Serge Godin, un membre d'Orab, les confronta directement au détour d'une rue. Il les surveillait de toute évidence depuis un bon moment. Il leur expliqua qu'Orab et eux avaient des intérêts communs sur ce dossier et leur ordonna de laisser tomber.
« Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Notre plan est en marche, donc laissez-nous faire !»
ordonna Serge Godin avec un timbre de voix qui en disait long sur son équilibre psychologique. Elita tenta de négocier cherchant une solution alternative, mais Geoffroy refusa catégoriquement.
« Nous ne nous laisserons pas intimider. La vérité doit éclater. Et ce, peu importe les risques. »
Serge partit sans insister, mais la menace de représailles planait sur eux. En rentrant, Geoffroy et Elita se disputèrent violemment. Elita reprochait à Geoffroy de les avoir mis en danger avec son intransigeance.
« Tu ne comprends pas, Geoffroy. Nous ne pouvons pas tout sacrifier. J'ai Raphaël à protéger. »
Geoffroy, frustré et en colère, quitta l'appartement, laissant Elita seule, avec ses peurs et ses hallucinations croissantes.
« Hé, débrouille-toi toute seule alors !»
Seule et vulnérable, Elita luttait pour distinguer le réel de ses hallucinations qui revenaient à la charge. Une nuit, elle fit une crise de panique sévère, croyant voir que des agents de Gamma venaient la chercher.
« Non, non, laissez-moi !»
Elle tenta de contacter Warzone, mais il était injoignable. Désespérée, elle décida de consulter un médecin dès le lendemain matin. Le médecin, voyant l'état de détresse d'Elita, lui recommanda de désactiver temporairement son régulateur d'émotions pour identifier l'origine du problème.
Vous devez vous reposer et désactiver cet implant. Il pourrait y avoir un dysfonctionnement, mais pour en être sûr, nous devons vérifier ce qui se passe quand celui-ci est éteint.
Elita hésita, mais finit par suivre les conseils du médecin, désactivant son régulateur. Cependant, les effets de son arrêt furent encore plus déstabilisants, la plongeant dans une spirale d'angoisse et de confusion. Elita préféra alors le remettre en marche, se disant qu'elle retournerait voir le médecin plus tard. Malgré tout, ses pensées devinrent de plus en plus sombres et elle commença à montrer des signes de paranoïa. Une nuit, alors qu'elle était seule à travailler, Raphaël se réveilla en pleurs.
Maman, j'ai fait un cauchemar.
Pas maintenant, Raphaël. Laisse-moi tranquille.
Lui hurla-t-elle dessus. Fatiguée et stressée, Elita réalisa immédiatement qu'elle avait eu une réaction disproportionnée. Elle prit le petit Raphaël dans ses bras et pleura de culpabilité. Peu après cet incident, Elita plongea plus profondément encore dans la paranoïa. Elle était à nouveau convaincue que des agents de Gamma étaient sur le point de venir la chercher. Elle fermait en permanence les volets de son appartement et ajouta même un verrou à la porte d'entrée, pensant protéger son fils et elle-même d'une menace invisible.
Ils viennent nous chercher. Je dois nous protéger,
avait-elle dit à son fils en murmurant. Pendant ce temps, Geoffroy, bien que toujours en colère, surveillait discrètement Elita pour s'assurer qu'elle ne faisait pas quelque chose d'irréparable. Un jour, il entra dans l'appartement et trouva Elita en pleine crise de paranoïa. Raphaël était terrifié et s'était caché sous une table.
« Elita, c'est moi. Il n'y a personne ici. Respire. Allez, nous allons traverser ça ensemble. »
essaya de la rassurer Geoffroy. Il parvint à la calmer temporairement, mais l'état d'Elita continuait de se détériorer. Ils savaient tous les deux qu'ils devaient agir rapidement pour mettre fin à cette situation. Elita et Geoffroy tentèrent de contacter à nouveau Warzone pour obtenir de l'aide, mais il était injoignable. Désespérée, Elita décida de recontacter Nicolas Bison, espérant en finir au plus vite et trouver un relais.
Nicolas, nous avons vraiment besoin de votre aide. C'est urgent.
Nicolas promit de la rappeler dès qu'il le pourrait, mais Elita ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir. Un soir, alors qu'elle était seule, elle fit une nouvelle crise de paranoïa aiguë. Convaincue que quelqu'un était sur le point de l'attaquer, elle prit des mesures désespérées pour se protéger.
« Non, vous ne mourrez pas !»
l'entendait-on hurler jusque dans la cage d'escalier. Pour tenter de calmer ses nerfs, elle prit des médicaments avec ses mains tremblantes, renversant la moitié du flacon et ingérant bien plus de pilules que la dose prescrite. Raphaël, attiré par les cris et le bruit, entra dans la pièce et vit sa mère dans un état de détresse extrême.
« Maman, qu'est-ce que tu fais ?»
Elita, en proie à une crise de convulsion, s'effondra devant son fils, de la mousse blanche sortant de sa bouche. Raphaël, terrifié, ne savait pas quoi faire et resta tétanisé, regardant sa mère mourir sous ses yeux. Quand Geoffroy revint à l'appartement, il découvrit la scène tragique. Elita était morte et le petit Raphaël, en état de choc, avait la tête de poser sur elle.
Non, Elita. Non.
La scène était dévastatrice et Geoffroy se retrouva à devoir gérer les conséquences de cette tragédie. Michael Sefangelo poursuit en exposant le reste de son enquête concernant le cas d'Elita. Il s'avère que la relation entre Elita et Orab est plus complexe qu'il n'y paraît. Feu le père d'Elita, décédé lorsqu'elle était petite, et Hugues de la Ronde, le leader d'Orab, étaient des amis proches. Mais plus encore, il s'avère que Hugues est le parrain d'Elita. Après la disparition de son père, il prit Elita sous son aile, la considérant comme sa propre fille. Michael reprit la parole en sirotant sa troisième tasse de café amélioré.
Il semble évident que Hugues ait souvent été en désaccord avec Elita sur ses convictions. Mais il l'a toujours protégée à sa manière.
Il émet alors plusieurs hypothèses sur les événements qui ont conduit à la mort d'Elita.
Était-ce une machination pour détruire la crédibilité de Gamma? Ou bien Hugues a-t-il perdu le contrôle de ses troupes? J'en sais fichtre rien. Dans les deux cas, Elita avait peut-être compromis leur infiltration chez Gamma. J'ai repris contact avec Geoffroy pour obtenir plus d'infos. Il s'est branché sur l'implant d'Elita, et c'est là qu'il a découvert un trafic de données assez étrange relatif à ses périphériques. Il a découvert que non seulement Orab était parvenu à infiltrer le milieu du hacking, mais plus précisément les Nekonata.
Vous êtes en train de dire que les bioconservateurs parmi les plus radicaux ont des hackers dans leur rang?
Et encore est-ce surprenant. Il convient de toujours distinguer l'outil et les compétences, de l'usage et les valeurs. Moi-même, je suis très méfiant avec les technologies alors que je suis un passionné du sujet. Mon point de vue est d'ailleurs assez proche de celui de Nicolas Bison en la matière. Mais pour en revenir à notre sujet, c'est suite à cette affaire que j'ai compris qu'il allait falloir que je mette les petits plats dans les grands pour boucler toute cette histoire. Soudainement, un vieux téléphone à cadran qui semblait faire office d'objet de décoration se met à sonner. Un instant, je vous prie, c'est mon assistant. Oui, André, qu'y a-t-il ? C'est alors qu'il prend brusquement à partie ses deux invités. À qui avez-vous parlé de votre présence ce soir ? Vous êtes sûr d'avoir bien éteint vos wafones ? Montrez-les-moi ! Nous ne pouvons pas prendre de risques ! Sans même attendre une réponse, il s'active alors avec rapidité comme si sa vie en dépendait et remballe tout son dossier pour le mettre aussitôt entre les mains de Jeanne. Jeanne, tenez-moi ça ! Sortez à présent tous les deux ! Je vous rejoins ! La suite dans Magma Bleu. Épisode 8. Une fin précipitée.
Réalité à télé, secret dévoyé, de l'air et un ami, dans l'ombre engagée, lutte pour la vérité, malgré les dangers, pour Raphaël et Thomas, il va tout changer. Les gamma scopes, une technologie facile.